Ok.
Et aussi, attends, je suis pas.
Là, on est en train d'enregistrer de toute façon. Hop. Là, c'est bleu. Là, c'est.
Vas-y.
Ouh. Ouais, et normalement, là, c'est vert. Donc,
tu peux nous mettre un peu moins fort, s'il te plaît. Enfin,
ouais, parce
pas.
Que. Ça, ou je sais mieux. Pas, ou sinon. Non, tu règles. Non, ouais. tu nous mets pas moins fort, mais nous,
oui,
on met
non,
moins fort.
Non, en fait, c'est ça, toi, il faut que tu mettes au maximum.
Toi, tu mets à fond. Hein.
Ok.
Et il faut que tu parles aussi bien devant le micro, si jamais.
Ok. On m'entend
mais,
tout seul.
Je sais pas, en fait. J'arrive pas à savoir si c'est dans le micro ou dans le casque.
Ok. Ok, d'accord.
Mais voilà, je pense que c'est bien comme ça. Ah oui, c'est vraiment, tu t'entends parler, quoi. Ok.
Ouais.
Okay. Wow, on va s'habituer.
Oui, on va s'habituer. Oui, oui. Au début, c'est angoissant.
Ok, c'est bon, sans que ça tombe. Si ça tombe, c'est la galère. Ok, donc là, c'est bon. Ok, c'est bon. Il faut vraiment que je me mette à côté. Ok.
Ok, 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 Lucie, ok.
C'est bon. Il fait chaud. Et il fait 6 degrés à Compiègne. N'oubliez pas de sortir vos parasols, c'est le maximum de l'année.
C'est enregistré, hein. Là, on a enregistré.
Ah merde.
Au cas où.
Ok.
Bon. On cotera, non.
Ouais, on cotera.
Il faut laisser juste un petit blanc.
Ouais.
Ok. Donc,
laisser un petit blanc avant de commencer.
Donc, je mets la... est-ce que je mets la musique à... avant? Genre, je mets un peu de musique à fond, puis après, je dégrade un peu jusqu'à la...
Ouais, mais 10 secondes, enfin, même pas 10 secondes, je pense.
Ouais, okay. Même pas. Hein.
Ah, c'est stressant.
Ouais, j'aimerais pas être à la place.
Super. Moi, ça va très bien.
Ok, c'est bon, là, on va laisser un petit blanc pour qu'il cut. Bonjour à tous, on est le 1er décembre, il est 18h06, vous êtes à Radiograph Hit, la fréquence est de 94.9 FM et vous êtes en train d'écouter l'émission L'eugénisme au cœur du débat. Donc oui, nous allons parler d'un domaine dont on ne connaît pas encore les conséquences sur l'espèce humaine et qui prend de plus en plus de place dans notre plan de faire une famille. Donc là, j'ai avec moi Lucille.
Bonjour.
Et Sacha.
Bonsoir.
Donc vous deux, est-ce que vous voulez faire des enfants déjà? Enfin...
Pour ma part, je sais pas trop. Bah, j'ai que 19 ans, du coup, je me projette pas énormément.
C'est vrai que c'est un peu jeune, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas.
Moi, je vous avoue que c'est un peu c'est un objectif dans ma vie, hein, de construire une famille. Donc peut-être que je participerai dans ce petit débat. Donc tout d'abord, l'eugénisme, ça veut dire quoi? L'eugénisme, ça veut dire littéralement bonne naissance. Et donc nous allons en parler, nous allons nous poser plusieurs questions. Okay, déjà, qu'est-ce que l'eugénisme concrètement? Qu'est-ce qu'il peut apporter à notre société, à quelle espèce humaine? L'eugénisme est-il forcément lié à une envie de recherche par de la perfection elle-même, qui peut parfois être même très personnelle? Et surtout, pourquoi l'eugénisme peut nous paraître effrayant, voire même repoussante? Donc nous allons parler du DPI dans le cadre médical, puis après du bébé en bonne santé au bébé catalogué. Donc nous allons parler de deux petits exemples qui ont bien marqué justement pour montrer à quel point ce sujet a été important. Donc tout d'abord, le mercredi 22 avril 2015, il y a eu un groupe de chercheurs chinois, l'équipe de Junjiu Hong, je suis désolée si je le prononce mal, qui a procédé en fait à des modifications génétiques sur des embryons humains. Et en fait, il y a eu plusieurs réactions. La première, c'est que bon, bah, c'est plutôt bien, puisque c'est une possibilité d'éradier de nombreuses maladies génétiques avant la naissance des bébés. Alors que d'autres sont un peu plus, y a un problème d'éthique, parce que ça, c'est un eugénisme contrôlé à la source. Et que ça peut paraître comme le film Bienvenue à Gattaca. Et toutes ces expériences, en fait, ils ont essayé de calmer le jeu. Ils ont dit non, mais ces expériences ont été menées de façon sur des embryons humains non viables. Donc, c'était obtenu auprès de centres de fertilité qui réalisent des fécondations in vitro. Et donc, le but de l'expérience, en fait, c'était de modifier un gène responsable d'une très rare maladie génétique du sang, la bêta-thalassémie, ou bien connue comme anémie de Kolei, qui cause, en fait, des déformations physiques et une anémie de certains globules rouges. Après, la deuxième, je pense que c'est la plus connue. Enfin, moi, j'en ai entendu parler avant même les recherches. Je ne sais pas pour vous deux.
Oui, moi aussi, j'avais entendu parler de ce qui s'est passé en novembre 2018. Je te laisse l'expliquer.
Merci. En gros, il y a eu deux jumelles qui ont été modifiées génétiquement afin qu'elles soient résistantes au VIH. En fait, grâce à la désactivation d'un récepteur qui permet en fait l'entrée du virus dans le corps humain et donc l'infection. Encore une fois, cette expérience pose des problèmes éthiques. En plus, ça a été mal fait. Apparemment, il a fait ça à l'arrache et qui ne sont pas en fait totalement immunisés contre le sida parce que tous les récepteurs ont été désactivés et le virus utilise en fait aussi d'autres récepteurs pour infecter l'organisme. Donc bon, voilà, c'est une victoire à demi-teinte. Hein. Et en fait, et là, on peut se dire, mais waouh, toutes ces recherches, c'est un peu dans le domaine de la fiction. Enfin, on ne peut pas encore s'apercevoir que, bon, on peut modifier tellement ça. Donc, on va voir que c'est beaucoup plus proche de la réalité que ça. Donc, l'utilisation du DPI dans le cadre médical, je laisse Lucilla en parler, puisque...
Justement, en fait, dans un premier cas, on va débattre sur les avancées de la science permettant d'éviter à un bébé d'avoir une maladie génétique dont sa famille souffre. Comme Yasmine l'a dit, ça va reposer sur le DPI ou diagnostic préimplantatoire, qui va consister à rechercher sur des embryons conçus in vitro, avec les spermatozoïdes du père et les ovules de la mère, une maladie génétique grave et incurable qui pourrait être transmise par les parents au bébé. L'examen vise en fait à remplacer dans l'utérus de la mère un embryon indemne de la maladie. Et aussi, il faut savoir que le DPI est autorisé en France, mais reste encore très très encadré. Et par exemple, en 2016, il n'y a eu que 7 demandes, je crois.
Et donc à partir de là, on peut se demander si on était confronté au fait d'avoir un enfant atteint d'une maladie qui n'est pas forcément génétique, est-ce qu'on recourrait à cette méthode ? Débattons tous ensemble.
Je vais commencer. On pourrait se dire que c'est tout naturel hein, de vouloir le meilleur hein, pour son enfant et que sa santé est primordiale. Donc on voudrait leur éviter d'avoir une vie terrible à cause d'une maladie hein, parce que on sait que donc avec la méthode donc CRISPR-Cas9 qui permet de découper l'ADN, et bon, on peut remplacer des portions de gènes qui sont malades par des gènes qui sont sains.
Donc en soi, guérir directement à la source le bébé.
C'est ça, on pourrait faire ça, oui.
Oui, ça semble vraiment pas du tout égoïste, cette façon de penser. Mais quand même, ces méthodes, elles paraissent un peu quand même dangereuses, voire même parfois inefficaces, comme on avait vu pour les jumelles qui ne sont pas modifiées.
En fait, il faut savoir aussi que cette méthode, elle n'est pas 100% fiable, hein, elle est voire dangereuse. Il y a l'existence de certains effets secondaires graves, hein, comme le développement de cancer. Donc, c'est pas très, très sûr. Et aussi, on peut aussi avoir l'apparition de mutations qui sont hors cible, qui peuvent être préjudiciables.
Ouais, surtout, en fait, on peut pas vraiment prévoir ce qui va se passer. Comme tu l'as dit, c'est vraiment pas une méthode qui est 100% fiable. Comme on le dit souvent, le risque zéro n'existe pas. Les recherches continuent tout de même d'être faites. Mais pour revenir à ta question initiale, si j'avais un enfant qui était atteint d'une maladie dont il pourrait souffrir pendant toute sa vie, voire même à cause de laquelle est-ce qu'il pourrait avoir une vie courte, je t'avoue que c'est un dilemme, enfin c'est une question que je me suis quand même posée plusieurs fois. Et en fait, le DPI, je trouve que vraiment ça peut être un peu, si je peux dire, une alternative en fait au diagnostic prénatal qui va justement permettre, enfin, qui va éviter une IMG, une interruption médicale de grossesse, voire aussi le risque de fausse couche causée par ce diagnostic, qui existe dans 1% des cas, pardon. Et surtout, en fait, les IMG, en fait, c'est des expériences quand même très traumatisantes pour la femme. Et en plus, ça peut lui éviter aussi d'avoir une grossesse très incertaine et aussi d'être tout le temps angoissée par rapport à l'état de santé de son futur enfant. Du coup, moi, j'ai plutôt une bonne vision par rapport au DPI, puisque ça peut non seulement éviter des douleurs chez l'enfant, mais aussi chez la femme.
Oui, mais aussi pour ajouter à ce que tu dis, pour ce qui est du diagnostic prénatal,
si on prend le cas aussi pour la trisomie 21, on a 90% des parents qui décident d'avorter en Europe. Hein. Donc ouais. Si, quand c'est détecté, et c'est presque 100% en Islande ou au Danemark. Donc, ce qui a même mené à une disparition quasi totale de cette maladie dans certains pays. Donc ça peut être une vraie alternative, oui.
Ouais, ça peut être une vraie alternative, mais en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, le DPI il va reposer sur un nombre important d'embryons qui vont être conçus in vitro pour espérer en avoir un de viable. Et justement, en fait, que deviennent les embryons non sélectionnés? Et justement, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que finalement, c'est plutôt éthique de choisir un embryon parmi tous ceux qui ont été fécondés?
Bah, après, si c'est à stade de l'embryon, enfin, je veux dire, l'avortement est bien autorisé.
Ouais.
Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence.
Ouais, après, je pense qu'on n'a pas non plus énormément notre mot à dire, puisque c'est quand même une question qui est très personnelle.
Oui, aussi.
Et, mais bon, j'avais quand même envie de... Bah, de vous dire que le DPI n'est pas quelque chose de totalement positif.
Mais il y a surtout, en fait, la vraie question, c'est une question fascinante, c'est que l'embryon, est-ce qu'on peut considérer ça comme, comme une espèce vivante, comme même un bébé? Il y a encore beaucoup de controverses, les médecins ne sont pas d'accord sur le fait à quel moment on peut considérer l'embryon ou le fœtus bah, comme un humain. Et donc, est-ce qu'on peut se permettre de réfléchir de la même façon alors qu'un embryon, c'est une cellule. Est-ce que, après, c'est comme ça, est-ce qu'on peut le visualiser vraiment comme notre futur bébé alors que ça n'a pas du tout la forme, en fait, et surtout qu'on ne sait toujours pas à partir de quand on peut être considéré comme un humain, même dans la grossesse, en fait.
Ouais, dans tous les cas, ça, je pense que ce sera vraiment l'éternel débat. On a tous notre avis là-dessus. Mais dans tous les cas, je pense que vraiment les avancées de la science, en tout cas pour nous guérir de certaines maladies, ça peut être que positif. Et surtout, laisser le choix des techniques aux parents, c'est aussi indispensable selon moi.
Mais bien sûr, mais après, je pense qu'il faut aussi faire attention et ne pas tout autoriser. Et il faudrait aussi bien limiter et délimiter ce qu'on appelle une maladie grave et d'un léger handicap. Donc pour pas qu'il y ait de dérive, tout simplement.
Ouais, pour pas qu'une fois, en fait, en quelque sorte, qu'on ait éradiqué certaines maladies très graves, que par exemple, on pourrait faire disparaître grâce à CRISPR-Cas9, comme la mucoviscidose ou la myopathie de Duchenne, et que finalement, ensuite, on se rabatte pas, si je peux dire, sur des maladies qui sont moins graves. Mais encore une fois, en fait, c'est très difficile de placer le curseur entre nécessaire et optionnel. C'est quand même... Encore une fois, une autre question plutôt fascinante.
Bah totalement, ouais. De toute façon, on vit quand même dans une société où quand on s'aperçoit qu'on peut faire quelque chose, on a envie de pousser les limites jusqu'au bout, surtout pour les chercheurs, c'est comme ça. Ils ne veulent pas vraiment qu'on pose des limites. Et justement, les dérives dont on peut parler avec ce genre de nouvelles inventions, c'est de tomber peut-être dans un eugénisme autoritaire. Donc ça veut dire que maintenant, peut-être que le gouvernement voudrait nous imposer l'eugénisme pour justement éviter les maladies génétiques, alors que le choix devrait peut-être appartenir aux parents.
Mais après, si je peux me permettre, c'est quand même une obligation morale et surtout légale de soigner un enfant qui est malade. Du coup, est-ce qu'en soi, soigner un embryon d'une maladie génétique, ça pourrait entrer dans cette clause ou pas? Bon, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Mm-hmm. Mais, enfin, justement, en fait, si ça le devient, comme tu l'as dit, en fait, on aurait peur de tomber dans un eugénisme autoritaire. Exactement.
Et donc, on peut même donner un petit exemple de l'eugénisme autoritaire, parce que c'est quand même un mot qui peut sembler très vague.
Oui, très connoté aussi.
Et c'est ça. Et en fait, c'est pour ça aussi que l'eugénisme, maintenant, paraît aussi, tout simplement repoussant. C'est parce que l'eugénisme nous fait beaucoup penser au nazisme. Alors qu'on va voir que, en tout cas, dans notre époque, c'est plus du tout le cas. Et ça serait quand même bête de faire ce lien avec ça.
Ouais. Et si je peux me permettre, j'aimerais bien... apporter un dernier argument qui, par contre, s'oppose au DPI. Dans certains cas, en fait, une maladie, elle peut être un facteur de survie. Et si on utilise le DPI, on risque de perdre un peu cette biodiversité. Même si, en soi, on voit aujourd'hui les handicaps comme quelque chose de négatif. Enfin, rien que le mot handicap, quelque chose d'handicapant, justement. Une maladie, en soi, ça peut sauver certaines personnes, comme par exemple... la drépanocytose, qui est une maladie héréditaire, on est totalement dans notre cas d'étude, permet de résister au paludisme. Donc, en fait, éradiquer toutes les maladies héréditaires n'a aucun sens, puisque bah, ça peut mener à une condamnation de personnes atteintes d'autres maladies.
Totalement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, merci pour ça.
Donc, en soi, en fait, si je peux me permettre, pourquoi pas conserver justement certains gènes responsables de certaines maladies, conservés dans des laboratoires, mais ensuite éviter aux personnes qui risquent d'en souffrir, éviter aux embryons malades, bah justement, en fait, d'avoir une vie courte, douloureuse. Et voilà.
Donc, il faudrait faire un peu le pour et le contre entre plusieurs maladies.
C'est ça, mais encore une fois...
Je pense que c'est un peu compliqué.
Oui, non, en fait, oui. C'est très compliqué, même. Je pense que c'est impossible et c'est pas très moral de le faire, puisqu'on ne peut pas classer sur une échelle les douleurs, telle maladie est plus douloureuse que l'autre.
Donc voilà, je tiens à vous rappeler qu'on est à la Radiographe HIT, la fréquence est 94.9 FM, hein, et vous écoutez l'émission d'SI1, l'eugénisme au cœur du débat. Après ce débat qui était bien intéressant sur le DPI, nous allons passer du bébé en bonne santé au bébé de catalogue. Mais avant tout, nous allons faire une petite pause musicale. You and Me, le remix fait par Flume. Et vous allez apprécier normalement.
Gonna be everything you ever dreamed.
Rebonjour à tous. Donc là, nous allons parler du bébé en bonne santé au bébé de catalogue. Donc tout d'abord, nous allons faire toujours une petite introduction et nous allons reparler du CRISPR CA9.
Du CRISPR-Cas9.
Cas9, merci, parce que je ne savais pas comment le dire. Ça avait l'air bizarre. Donc, alors, c'est un outil. Donc, c'est des outils moléculaires qui permettent en fait la modification du génome prénatal. Et en fait, c'est de plus en plus efficace, rapide, abordable et c'est plutôt super. Et en fait, tout ça, ça a été découvert en 2012. Et le principe a été découvert en fait par une chercheuse française représente Emmanuelle Charpentier. Et en fait, c'est le principe voilà du CRISPR-Cas9, c'est ça ?
CRISPR-Cas9.
Merde, CRISPR-Cas9. Ok, c'est bon, je vais y arriver. Et qui consiste en fait à programmer une protéine qui est en fait capable de couper l'ADN. Hein, donc c'est le Cas9. Hein. Et ça va permettre de modifier de façon spécifique à un endroit très précis le génome. Donc grâce à cet outil génétique, il devient possible et même assez facile de cibler n'importe quel gène dans une cellule pour le modifier. Donc l'éteindre, l'allumer, l'expression du gène, etc. Donc un bébé sur mesure, c'est quoi ? Un bébé sur mesure, ou on peut le dire comme ça, un bébé à la carte, est un enfant conçu par fécondation in vitro et sélectionné génétiquement dans le but de s'assurer la présence ou l'absence d'un gène particulier ou d'une caractéristique particulière. Sacha, nous t'écoutons pour l'histoire de l'eugénisme.
L'eugénisme. L'eugénisme, donc, ça consiste à sélectionner les individus d'une population en se basant donc, sur leur patrimoine génétique, de manière à éliminer les individus qui n'entrent pas dans un cadre de sélection prédéfini, et ainsi de se faire tendre le reste de la population vers un idéal déterminé. Donc ça, c'est un terme créé par Galton, mais on trouve déjà cette idée dès l'Antiquité. Et c'est vrai que l'eugénisme, c'est connoté très négativement depuis le début d'ailleurs.
Oui.
Parce qu'en fait, de base, ça a été créé un peu pour améliorer une race ou une population.
Mmh. Mais en fait, c'était ça, c'était pour promouvoir le développement et la procréation des classes aisées et diminuer celles des classes ouvrières. Et du coup, initialement, les classes ouvrières se reproduisaient beaucoup plus puisque les enfants étaient une nécessité, contrairement aux classes plus aisées.
C'est ça. Ben, en fait, c'est là d'où la définition d'eugénisme autoritaire. En fait. C'est encadré par l'État et c'est mené sur l'entièreté de la population. Et donc, on a eu des dérives tragiques hein, donc avec le nazisme. C'est pour ça que donc, l'eugénisme s'est connoté très négativement. Mais maintenant, on a un retour de l'eugénisme qui est plus individuel et qui consiste à que le choix appartienne aux parents. Donc en fait, c'est ça, l'eugénisme libéral. Donc on s'intéressera plutôt donc, à la finalité qu'aux méthodes utilisées d'eugénisme. Et donc, si on se limite à la modification génétique ou non à la sélection de gamètes en vue de faire un enfant sur mesure.
Et donc là, on peut se poser la question, est-ce que vous considérez encore du domaine de la science-fiction ou est-ce que c'est une réalité ? Et aussi, qu'est-ce que vous en pensez, en fait, de le bébé à la carte ?
Je vais commencer avec ta première question. Est-ce qu'on considère que c'est encore du domaine de la science-fiction ou est-ce que c'est vraiment une réalité ? Je pense qu'on peut revenir sur tes deux exemples que tu as dit au tout début. Comme quoi est-ce que du coup il y avait des jumelles qui avaient été modifiées génétiquement pour être en partie résistantes au VIH et une autre équipe de chercheurs chinois qui ont modifié en fait le génome d'embryon. Donc en soi, les recherches actuellement elles sont menées, elles sont en cours. Du coup, je pense que bien il y a plein de choses qu'on ne sait pas. La génétique ne détermine pas tout. Il y a aussi l'environnement qui fait énormément de choses.
Surtout qu'aux États-Unis, tu peux déjà choisir le sexe et les yeux de tes enfants dans certaines cliniques.
Ouais, lors d'une PMA. Du coup, c'est sincèrement déjà une réalité, même si on ne peut pas encore tout contrôler, c'est déjà vraiment une réalité. En plus que les connaissances sur le génome et le phénotype, elles avancent quand même à une croissance exponentielle. En plus, dorénavant, on utilise des nouveaux outils informatiques qui accordent en fait un futur prometteur aux nouvelles découvertes.
Mais après, on ne sait pas tout. Par exemple, on sait pas le gène. On sait que le gène de l'intelligence, il est codé par une multitude de gènes, et ça dépend aussi de ce qu'on définit par l'intelligence. Donc, si c'est juste l'excellence académique ou le QI.
Oui, en plus, comme je l'ai dit, l'environnement fait énormément. Pour prendre un autre exemple, l'exemple de la taille, ça va aussi être déterminé par rapport à l'alimentation de la personne. Et pour revenir cette fois-ci sur l'exemple de l'intelligence, en fait, de toute manière, notre cerveau il a une plasticité plutôt impressionnante et étonnante. Donc en soi, encore une fois, la génétique, sincèrement, elle ne détermine pas tout.
Est-ce que vous pensez que maintenant... plus l'eugénisme va avancer, plus en fait ça va être inclus dans notre santé médicale. Et est-ce que vous pensez que peut-être ça sera dans le futur remboursé par la sécurité sociale? Et quel est votre avis par rapport à ça?
Je pense potentiellement dans le futur ça peut être remboursé par la sécurité sociale, mais dans le cadre des maladies, pas dans le cadre du bébé à la carte, par exemple choisir la couleur des yeux de son bébé. Ça, j'en doute. Pour l'instant, j'en doute. Je ne sais pas de quoi sera fait le futur, mais voilà.
Mais après, il faut savoir aussi toute une question de limite et toute une question de savoir où est-ce que c'est l'handicap, la maladie ou juste des critères physiques.
Oui, c'est ça. En soi, je ne pense pas que les critères physiques... enfin, je verrais mal choisir un critère physique de mon enfant et me le voir remboursé par la... par la sécurité sociale. Je sais pas, franchement, sincèrement, je sais pas pour vous, mais moi, je me vois pas.
Moi non plus, je me vois pas, j'avoue.
C'est bon, on est sur la même longueur d'onde.
Non, mais ouais, moi, je me vois pas du tout comment je pourrais voir... Enfin, c'est un peu la surprise de voir « Ah, il a le nez de son père !» Bah, dommage, en fait, skin, quoi. Mais voilà, et aussi, on dit beaucoup que la génétique, quand même, c'est quelque chose de vachement complexe et tout. Et pourtant, il y a encore des gens qui font des petites recherches. Je pense notamment à un chinois. J'allais dire un petit chinois, mais peut-être que c'était un peu... Bref. Et il s'appelle... Bref, il s'appelle Zhao Bain. Enfin, je ne sais pas comment ça se prononce. En vrai, je suis désolée. À chaque fois, je prononce hyper mal. Bref. Et qui cherche en fait le fameux gène du QI. Et donc là, par exemple, il a l'information de l'ADN de plus de 2500... de 2500 génies, hein, le QI, il est supérieur ou égal à 160. C'est plutôt... Imaginez vraiment qu'il pourra en fait contrôler, entre guillemets, le gène, le QI après, de notre enfant.
Après, il y a l'identifier qui est une chose et le transformer sur un embryon qui en est une autre. On sait qu'avec la méthode de CRISPR-Cas9, on peut modifier un gène cible. Mais par exemple, le gène de l'intelligence ou le gène du QI... C'est des milliers de gènes qui sont en corrélation. Et donc, on n'a pas encore de technique qui permette cela.
Ouais, non. Mais voilà, en vrai, genre, j'imagine.
Mais après, dans l'avenir, pourquoi pas? On ne sait pas.
Oui, c'est ça. Oui.
Dans tous les cas, merci. Dans tous les cas, la découverte de CRISPR-Cas9 est quand même très récente. Et sincèrement, c'est très prometteur pour la science.
Totalement. Hein. Et peut-être... après, je ne sais pas si... si je voudrais vraiment contrôler l'intelligence de mon enfant. Enfin, après, je sais pas. Après, le QI, ça veut tout et rien dire hein, aussi.
Oui, oui, dans tous les cas. Oui.
Donc,
mais peut-être que ça décrédibiliserait justement tout ce qu'on fait pour acquérir une certaine intelligence. Mais encore une fois, il faudrait s'accorder sur la définition d'intelligence.
C'est ça, parce qu'il y a des gens parfois qui disent que l'intelligence, c'est en fait connaître le plus de choses.
Oui, alors mais que non, moi je considère que c'est le savoir, c'est pas l'intelligence.
C'est totalement ça, ou même de la culture générale en
oui,
soi.
Aussi.
Parce que. Ah. Juste avant de continuer, genre, je vais dire quand même, voilà, donc en gros, la connaissance en soi, genre, si on utilise bien notre savoir, c'est ça l'intelligence. Quand même, je vais vous rappeler, parce que voilà, qu'on est dans Radiographe Hit et que la fréquence est de 94.9 FM et que vous écoutez toujours l'émission L'eugénisme au cœur du débat.
Et d'ailleurs, pour continuer là-dessus, est-ce que vous préféreriez que ce soit l'État qui décide d'avoir des lois concernant les maladies sur les embryons, de supprimer les maladies des embryons, ou que ce soit le choix des parents?
Sincèrement, moi, je pense que c'est le choix des parents. Puisque il y a certaines choses qui, dans l'imaginaire collectif, s'apparentent à un handicap, alors qu'en réalité, ça peut être considéré comme étant une identité. Je pense que, Yasmine, tu as un exemple, justement, un exemple sur la surdité.
Ah oui, totalement. En gros, attendez, en 2002, c'est ça, en 2002, il y a eu un couple de lesbiennes Et ce couple de lesbiennes est en fait sont sourdes. Et en fait, elles voulaient avoir un enfant, donc avec un homme qui est un homme porteur qui va donner ses spermatozoïdes et tout. Et ils voulaient que l'homme soit sourde dès la naissance, en fait, donc qu'il soit dans ses gènes, hein, et parce qu'ils veulent en fait un enfant sourd. Et moi, j'ai trouvé que cette histoire, elle était vraiment intéressante. Hein. Le fait qu'on voudrait avoir un enfant sourd, alors qu'on considère ça, mais tellement comme un handicap, alors que ça ne l'est plus trop forcément maintenant, en fait.
Bah, en fait, d'un côté, on peut le dire que l'enfant soit sourd, ça peut le priver de certaines potentialités dans sa vie. Il aura peut-être un accès plus difficile à certaines choses. Mais d'un autre côté, je comprends totalement le choix du couple, puisqu'en fait, l'enfant pourrait potentiellement se sentir exclu ou incompris au sein même de sa famille. Les parents aussi, ils avaient dit qu'ils comprendraient mieux comme ça le développement de leur enfant et qu'ils pourront l'aider encore plus dans son orientation, quelle qu'elle soit. Et du coup, pour ma part, je comprends totalement le choix des parents. Et encore une fois, ici, les parents considèrent vraiment la surdité non pas comme un handicap, mais comme une identité culturelle.
C'est ça. Enfin, après, identité culturelle, je ne sais pas.
Ou comme une identité.
Ouais, comme une identité, voilà, c'est tout à fait ça. Après, bon, être sourd, on peut faire des choses quand on est sourd.
Mais est-ce que l'enfant le percevra peut-être plus comme un handicap qu'une identité culturelle ?
Et surtout, en fait, comment l'enfant il va réagir quand il va savoir ça, quand il va savoir que ses parents ils ont fait quand même en sorte qu'il soit sourd. Peut-être qu'il s'en foutra. Hein.
C'est délibéré.
Bah, mais
je pense qu'il comprendra. Mais après, en fait, on peut vraiment pas se positionner.
C'est ça, mais c'est juste, moi, genre, je me pose ces questions parce que je suis curieuse. J'imagine que mes parents, je sais pas, ils étaient sourds et qu'ils avaient voulu que je sois sourd. Est-ce que j'aurais pas en mode ah non, j'aurais pu peut-être savoir le son, alors que peut-être pas en fait. Hein. Peut-être que je serais sourde, on ne sait pas. Hein. Mais on ne peut pas savoir ça, mais c'est toujours très intéressant d'avoir ce genre d'exemple. Hein.
Mais après, le souci, c'est que si on n'autorise pas ça, ça voudrait dire qu'on n'autoriserait pas aussi. Si on dit que ce n'est pas moral de le faire, pour les parents de le faire, on pourrait dire aussi que ce n'est pas moral pour eux d'avoir un enfant, sachant que l'enfant a une grande probabilité d'être sourd.
Oui, d'avoir un enfant naturellement, en fait, sans fécondation in vitro.
Mais là, c'est quand même un choix délibéré.
Ouais, totalement. On peut maintenant s'intéresser à d'autres questions, qui est, est-ce que c'est finalement acceptable, on en parle toujours, hein, acceptable de créer des bébés mesures pour ou contre ? Et justement, petite question, je pense, vous deux, vous m'avez répondu que, vous savez pas trop. Si vous voudrez avoir un enfant plus tard, c'est normal, on est un peu jeune, faudrait déjà se trouver un petit copain, faudrait déjà avoir, aussi avoir un avenir, quoi, un avenir tracé, hein. Parce que vu comment se sont passés les médias, par exemple, moi, je voudrais vraiment avoir un enfant, je me vois mal, en fait, avoir un bébé sur mesure, parce que sachant que moi, j'ai pas d'entité, j'ai pas de maladies qui peuvent être transmissibles avec ma génétique. Voilà, je suis assez belle et tout, donc ça va, je suis assez confiante, tu vois, sur les gènes que je peux poser à mon enfant. Mais vous, peut-être que ça pourrait vous poser peut-être plus de problèmes. Imaginez que vous voulez avoir un enfant et tout, et est-ce que vous serez cap quand même d'avoir... Enfin, pas cap, mais vous y intéresserez en tout cas, peut-être.
Personnellement, je suis totalement contre de vouloir faire un bébé à la carte ou de choisir des traits, que ce soit... c'est surtout physique, hein, surtout des traits physiques. Comme la taille ou ça peut être le gène d'intelligence, mais faudrait énormément de progrès dans la recherche. Mais je suis vraiment contre cette idée parce que on irait vers une sorte d'eugénisme hyper-libéral. Hein. Ça veut dire qu'on donnerait vraiment beaucoup de droits aux parents. Et
mais est-ce que c'est vraiment un mal en fait de donner le choix aux parents ? C'est ça que je me pose comme question.
Ça peut être un mal justement parce que si tous les parents ils décident par des critères qui sont totalement subjectifs, de vouloir créer des enfants qui sont peut-être plus grands ou je sais pas moi, ou qui ont un QI plus élevé, ça serait un peu la norme. Ça voudrait que tous les parents voudront le faire. Et là, on pourrait basculer dans un eugénisme autoritariste.
Et d'ailleurs, il me semble, toi, Sacha, on en avait un peu parlé, t'as vu le film Bienvenue à Gattaca, il me semble, ça. Donc, tu voudrais pas nous en parler, parce que moi, perso, je l'ai pas vu. Hein.
En fait, c'est justement ça, hein. C'est un super film C'est un super film sur l'eugénisme et ça parle d'un enfant qui a été, on va dire, créé naturellement. Et à la naissance, ils ont une machine qui peuvent savoir le pourcentage de maladies qu'il aura, son espérance de vie, toutes ces données-là. Et en fait, toutes ces données-là vont coder sa future vie. En fait, vont déterminer sa future vie. En fait, ça se base sur le déterminisme génétique. Donc en fait, lui, il rêve d'aller dans l'espace, mais il n'a pas des gènes qui sont... il n'a pas des bons gènes, on va dire. Ça veut dire qu'il a des chances d'avoir des cancers, plein de maladies.
Des risques. Si
des risques. Des risques, oui. Des chances, c'est pas le bon terme. Et du coup, voilà. Mais avec beaucoup de détermination, il arrive à avoir les compétences et en ayant une autre identité. Ça veut dire qu'il va faire un pacte avec une autre personne qui a des gènes, quant à lui, qui sont dites élites. Et donc, il va prendre son identité pour rentrer justement dans le centre de formation spatiale et de passer les tests et pour aller sur Titan.
Ah bah putain, en vrai ça a l'air
ouais,
super bien.
Ça a l'air très intéressant, mais du coup dans le film Bienvenue à Gattaca de Andrew Niccol, on voit clairement qu'il y a une discrimination en fait entre les enfants nés naturellement et les bébés sur mesure et les enfants modifiés.
Ouais, c'est ça.
Si je peux me permettre aussi, dans le film on voit que cette méthode n'est pas infaillible, ce qui est toujours une réalité, la méthode n'est pas du tout infaillible, qu'il y a des failles qui existent puisque certains personnages vont acquérir et vont surtout exprimer des caractères. Ici, des traits de personnalité qui, génétiquement parlant, ne devraient pas exprimer.
Totalement d'accord, en vrai, genre...
Mais juste pour revenir au film, justement, comme tu l'as dit, en fait, les gènes vont déterminer sa vie et ça veut dire qu'il n'aura pas le droit à des grandes écoles parce que l'assurance de l'école ne va pas vouloir le prendre en charge parce qu'il y a beaucoup de risques qu'il soit malade, etc. Donc on peut aller dans des dérives-là, quoi.
Ah oui, donc c'est vraiment, en soi, on a une vie encadrée, déterminée dès la naissance.
Et c'est ça.
Je pense
qu'il ne donne même pas de chance.
Oui, en fait, c'est ça.
Et là, on peut se dire, bah voilà, genre le gène, ça ne fait pas tout, en fait. Il y a aussi l'expérience. Enfin, il y a quelqu'un qui aura beau avoir, je ne sais pas, être très intelligent ou même être très apte sportif, s'il n'est pas intéressé sur les études, mais voilà, je ne sais pas, il voudrait faire de la musique et pas du tout du sport. Bah, il ne sera jamais un grand champion alors qu'il y avait ces gènes qui étaient disposés en mode c'est bon, tu seras un grand champion, mais qui en mode bah non, je veux faire de la musique.
Oui, autant.
Donc il y a aussi l'environnement qui joue beaucoup. Hein. Genre, les gènes ne font pas tout.
Mais justement, c'est un peu ça le souci. Ça veut dire que si on met en place un déterminisme génétique, et ben en fait, ce même déterminisme, il va consolider ce déterminisme. Parce que si vous avez des parents qui ont un enfant et qui savent que l'enfant a des bons gènes, on va dire, et ils vont le pousser à faire quelque chose, alors que s'ils ont un autre enfant qui a des moins bons gènes, ils vont moins l'encourager, ils vont moins le pousser à faire de grandes choses. Et donc voilà, mais pour faire une analogie au film Bienvenue à Gattaca, c'est justement sa motivation, ses rêves qui le poussent à
aller le plus loin possible,
oui, et à faire tous les sacrifices possibles
pour finalement réussir, même si initialement, génétiquement, il n'était pas apte à faire les choses.
C'est ça.
T'as parlé des parents, et ça m'a rappelé que avoir un bébé sur mesure, c'est un risque quand même que les parents projettent leurs rêves et leurs désirs sur l'enfant.
C'est ça.
Et je trouve ça très malsain. Ils auraient un peu une emprise, justement, encore une fois, à la source, dès la naissance de l'enfant. Mmh. Et ça peut être sincèrement une dérive qui n'est pas du tout à négliger.
Totalement. Et aussi, le fait qu'on sélecte, parce qu'on parle beaucoup de sélection faite par l'humain, mais aussi, si un humain n'est pas apte à vivre, il y a aussi la sélection naturelle qui se débrouille, en fait. Genre, depuis la nuit des temps, c'est comme ça que des espèces disparaissent, c'est comme ça que des espèces perdurent ou des espèces se perfectionnent, entre guillemets.
Exactement.
C'est ça. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas laisser la sélection naturelle et tout? Mais après, c'est ça, en fait. Et on se dit... comme on a la capacité maintenant de pouvoir éviter des souffrances ou le fait que quelqu'un naisse alors qu'il n'est pas très, entre guillemets, apte à bien vivre, surtout pour les maladies, je parle, parce que voilà, par exemple, la sélection naturelle se base par exemple pour la taille, genre aussi, enfin, c'est comme ça, mais on peut se dire, voilà, enfin, comme on est maintenant apte à pouvoir maintenant empêcher des douleurs à des potentiels enfants. Est-ce que c'est pas même une non-insistance à la personne en danger, entre guillemets? Ça, je sais, je vais un peu trop loin, mais en soi, On peut se demander si c'est pas une sélection naturelle ou bah, le fait comme on est humain, bah, on fait, on essaye quand même de réagir.
Non, mais en soi, tu m'as fait rappeler, tu me fais souvenir quelque chose. Est-ce que vous imaginez apprendre ou même comprendre le fait que des parents apprennent que leur enfant va avoir une vie courte et douloureuse et que ses parents veulent quand même avoir l'enfant. Je pense sincèrement, je comprendrais, puisque peut-être que c'est un désir d'avoir un enfant. Mais d'un autre côté, c'est quand même vouloir un peu la douleur de quelqu'un et vouloir la souffrance de quelqu'un et la cautionner.
C'est pas vouloir je pense pas que c'est vouloir la souffrance, mais en fait, c'est se dire t'inquiète, on va être fort. On va s'en occuper bien et tout. Enfin, c'est plutôt de l'orgueil, je dirais, peut-être. Après, je suis peut-être dure, mais...
Voire peut-être même... Bah, après, ça serait peut-être aller trop loin, mais de l'égoïsme. D'un point de vue des parents. Mais après, je veux dire, faire un enfant, c'est d'une manière égoïste, de toute façon. Je veux dire, c'est une volonté qui appartient aux parents.
Oui, c'est vrai.
Donc, je veux dire, l'enfant n'a pas de...
L'enfant n'a... Bah, il peut rien dire, du coup.
Il peut juste dire, bah, je vis, en fait. Bah oui, non, et surtout que bon, bah maintenant on est dans un pays comme la France, on n'a plus ce problème de vouloir à tout prix procréer, parce que maintenant on est dans une étape qui est la surpopulation, donc maintenant il n'est plus obligé vraiment de procréer, puisque on est déjà assez et même ça nous pose problème. Donc vraiment vouloir un enfant, c'est plus maintenant pour l'espèce, mais c'est vraiment pour nous en fait.
C'est ça, c'est ça.
Ouais.
Mais je pense qu'il faudrait justement limiter, on va dire, cette forme d'égoïsme. À juste la volonté d'avoir un enfant et pas d'avoir un enfant comme on le désire et à l'image.
Oui, c'est ça.
À notre image, quoi.
Ouais. À notre image, mais avec moins de défauts, quoi.
c'est ça.
Il y avait aussi un autre problème que pourrait causer de généraliser les bébés sur mesure. C'est qu'il y aurait, à mon avis, un univers de clones, puisque. On évolue quand même avec les mêmes standards de beauté, les mêmes idéaux, qu'ils soient, encore une fois, physiques ou de personnalité. Et il y aurait sincèrement un risque de perdre une certaine diversité génétique et même une diversité en règle générale. Ouais. Vous n'avez pas peur, vous, de vous retrouver un moment dans un monde où tout le monde fait plus d'1m80, tout le monde a une bonne musculature, je ne sais pas.
Ouais, non, je pense que je m'ennuierais à mort, en fait.
Ouais, exactement.
Ok, bon, bah... Ouais,
mais après, si toi tu fais déjà partie aussi de cet univers de personnes idéales, peut-être que tu t'en rendrais pas compte.
Ouais, c'est sûr. De toute façon, je pense que je ferais partie des gens qui se rendraient pas compte des problèmes comme ça. Mais par contre, je sais qu'il y a des gens, il y aura toujours quelqu'un qui pourra toujours se dire « j'aime pas trop ça, en fait ». C'est comme ça qu'il y a eu des évolutions dans la vie. Et c'est pour ça que voilà, il y a eu aussi des bons moments dans l'histoire. C'est parce qu'il y a des gens qui se sont dit « ce n'est pas normal et je ne pense que ce n'est pas la bonne façon de voir les choses. Je propose une autre vision. » Et c'est comme ça que maintenant, on est un peu diversifié de notre façon de penser, notre physique.
C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Puis même en soi, les standards de beauté, les canons de beauté, ils évoluent tellement, ne serait-ce qu'au cours d'une vie.
Ouais, ça a
énormément changé. Même au cours des siècles aussi, les attentes sur les personnes ont énormément changé. Par exemple, à l'ère industrielle, on attendait vraiment que les personnes qui travaillaient soient fortes, tout simplement. Tandis qu'après, on attendait plutôt que les personnes soient capables de réaliser un travail intellectuel et non plus physique. Et même de nos jours, avec l'arrivée de plus en plus d'outils technologiques, eh bien, on change encore finalement notre vision de la personne. Et du coup, j'aimerais bien attirer votre attention sur, encore une fois, ce risque de perdre une certaine biodiversité qui est en soi indispensable... Indispensable puisqu'elle permet l'adaptation des espèces à une situation au cours des années.
Voire même l'évolution, en fait, tout simplement.
Oui, mais c'est une adaptation qui est voulue par l'homme.
Qui est contrôlée aussi, c'est ça, je pense, le risque aussi.
Et qui n'est pas engendrée par l'environnement. C'est ça qui diffère aussi.
Puis aussi, en fait, on n'est pas, je ne nous juge pas aptes à faire des choix pour les générations futures.
C'est sûr, parce que comme on l'avait dit dès le début, on ne connaît pas du tout les conséquences de l'eugénisme. Enfin, on ne sait pas. Et on se connaît assez pour que l'espèce humaine ait toujours un peu peur de l'inconnu. C'est comme ça. Et j'avoue que pour moi, le futur, je ne sais pas comment ça va être parce que l'eugénisme, c'est de plus en plus à nos côtés, quoi, entre guillemets.
Ouais, c'est vrai, puis c'est très important de se questionner là-dessus, étant donné que quand même, l'eugénisme, ça va être transgénérationnel. ça va pas nous considérer que nous, ça va considérer nous, notre descendance, la descendance de, notre descendance, etc.
Tout à fait.
Etc. Ouais.
Et par exemple, je voudrais bien revenir sur la beauté et tout. Et oui, c'est vrai que la beauté, ça change énormément. Enfin, après, on a vu, moi, j'ai vu ça au lycée, surtout la beauté de la femme, hein, qui était vue à travers les arts. Et en fait, à chaque fois, c'était par rapport aux attentes qu'on a aujourd'hui, enfin, aux attentes qu'on a à l'époque. Par exemple, après la Grande Guerre, on voulait une femme forte pour montrer qu'elle n'était pas pauvre. Donc, ça veut dire qu'elle mangeait assez bien ou des trucs comme ça. Mmh. Ou avec les pin-up, avec des formes généreuses.
C'est ça.
Et donc, ça change de partout, quoi. Et même, on peut se dire, la beauté, normalement, c'est une rareté, entre guillemets.
Mais c'est surtout très subjectif.
Aussi.
Oui.
Et vas-y.
Non, non, t'inquiète, j'étais en train de tousser. C'était pas le corona. Mais non, vas-y, continue pendant que je suis en train de...
Mais ça voudrait juste dire aussi que... qu'à chaque temporalité ou à chaque époque, eh ben, y a des standards différents, quoi.
Oui, c'est ça. Puis si on a perdu les caractéristiques, puisqu'on a trop voulu modifier l'humain, comment est-ce qu'on va faire pour revenir en arrière?
Ouais. C'est une bonne question.
En soi, on pourrait conserver certains caractères. Il y a, bah, par exemple, il y a des sélectionneurs de races animales qui le font, puisque du coup, ils sélectionnent certains caractères et ils vont conserver ces caractères sous forme de paillettes de sperme congelées, par exemple, ou alors sous forme d'informations. Donc en soi, c'est tout à fait possible de garder cette information, mais peut-être garder cette information sur des ordinateurs ou en laboratoire n'est pas l'idéal, puisqu'on peut garder en soi cette information dans la population.
Oui, oui, bien sûr. Mais je pense que c'est une question qui est très délicate. Et aussi, si on enlève, on dirait, comment dire, si on enlève un peu ce brassage qui est naturel de la génétique, et si on donne le pouvoir aux parents de déterminer déjà le génome, les gènes, etc., on empêche aussi un peu l'enfant à s'autodéterminer, trouver sa voie, à trouver qui il est.
Oui, exactement, puisqu'il aura déjà une certaine identité des parents sur lui.
Oui.
Encore plus forte que ce qu'on a, nous, déjà.
Donc, je veux aussi revenir sur un point qui est, bon, l'eugénisme, c'est une science, c'est dans le domaine scientifique, mais est-ce que ça peut être aussi un projet politique, hein? Parce qu'on a déjà vu ça dans le passé, donc pourquoi pas maintenant, en fait? Pourquoi pas demain?
Pour ma part, je pense que dès qu'on laisse le choix aux parents de faire ce qu'ils veulent, ça ne deviendra pas un eugénisme comme on l'a connu.
Oui, totalement.
Mais si tu laisses trop le choix, y aura forcément une forme d'autoritarisme dans l'eugénisme.
Voire même de l'excès. Oui. Hein.
Bah, oui, parce que oui, vous avez totalement raison, puisque la somme des choix individuels fait finalement le choix collectif.
Exactement.
Parce que bon, si on pouvait savoir que les gens ils peuvent faire ce qu'ils veulent, on ne serait pas dans une démocratie, entre guillemets, enfin dans une république, par exemple en France, qui est, on choisit justement un élu du peuple pour pouvoir s'en occuper, quoi. Sinon, on serait, je sais pas, dans une anarchie. Une anarchie, oui, totalement. Même si c'est péjoratif, une anarchie, normalement, c'est bien. Pour moi, c'est bien. Je vous rappelle, qu'on est dans Radiographe Hit, que la fréquence est de 94.9 FM, qu'on est toujours dans la même émission, l'eugénisme au cœur du débat avec Sacha, Lucille et moi-même. En fait, je me suis même pas présentée, donc je m'appelle Yasmine.
Donc, c'est un peu tard là, je crois.
Ouais, j'avoue, bon, c'est pas grave.
Non, mais je pense que c'est important de voir si l'eugénisme c'est une science ou c'est plutôt une idéologie ou à la fin un projet politique, quoi.
Et donc, là, maintenant, est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose avant de conclure?
Ouais, j'aimerais bien ajouter quelque chose. On n'a pas parlé du côté financier de la chose, qui n'est quand même pas à négliger.
C'est vrai.
Quand même, la modification génétique d'un embryon, ça aura forcément un coût financier très élevé. On est d'accord là-dessus. Mm-hmm. Ne serait-ce que pour les manipulations, etc., etc. Et on ne sera pas tous aptes à avoir les moyens, dans l'idée que c'est bien évidemment pas remboursé. Et du coup, il y aura une nouvelle forme de discrimination par l'argent qui se créera. Je pense qu'on est tous d'accord que ça va, encore une fois, diviser les personnes qui ont pu être modifiées génétiquement, qui d'ailleurs, instinctivement, on va les placer supérieures aux personnes qui vont être naturelles. Et du coup, vous pensez que... Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que vous pensez aussi que ça va créer un clivage encore un autre entre les personnes qui peuvent s'offrir ce type de technologie et celles qui ne peuvent pas?
On pourrait se référer justement au titre du livre Le meilleur des mondes, hein, de Aldous Huxley. Donc, il parle justement de ça, hein, qui parle assez tôt, même dans les années 1930, il me semble.
Mais après, là, il me semble que c'est quand même les naissances qui sont contrôlées par l'État. C'est pas... En fait, toutes les naissances sont contrôlées par l'État et on n'a plus, quasi plus de naissances naturelles.
Oui, on n'a plus de naissances naturelles, mais il y a quand même aussi, hein, tu disais, de classes. Ces classes suivant les gènes qui sont dits élites, oui. Avec les moyens de le faire ou non, quoi.
Ah oui, c'est vrai, tu dis qu'il va y avoir un certain échelonnage des personnes en fonction des gènes. Oui, mais là, en fait, y a pas le, si je me souviens bien, il n'y a pas les dimensions financières en fait, de la chose. C'est l'État qui va vraiment diriger, qui va attribuer à telle personne, telle classe, donc tel gène.
Okay, oui.
Donc, il n'y a pas la dimension financière, mais c'est vrai que faire référence au meilleur des mondes de Aldous Huxley, c'est une très bonne idée, puisqu'on voit encore une fois si l'eugénisme est poussé à l'extrême et si on retombe dans un eugénisme autoritaire, à quel point est-ce que ça peut avoir des dérives. L'État, à force de chercher une certaine stabilité, bien devient clairement liberticide,
ouais.
Puisque tout le monde a déjà un avenir prédestiné, un avenir préécrit. Et on a justement critiqué ce point un peu plus tôt dans l'émission.
Mais donc, si on donne trop liberté aux parents, il y a une forme d'eugénisme autoritaire qui peut apparaître.
Mais autoritaire, oui. C'est avec l'État, hein, il me semble. L'eugénisme autoritaire, c'est surtout l'État, en fait, qui...
Oui, mais dans le sens autoritaire où...
Je dirais pas autoritaire, mais peut-être extrémiste, peut-être, je sais pas.
En tout cas, un eugénisme général.
Oui, c'est ça. C'est que ça affecte une population.
C'est ça.
Ouais, on peut même parler de la pression sociale aussi, hein, qui peut jouer là-dessus, en fait, sur le fait ton enfant, il est pas comme ça et tout. Non, mais en plus, je suis sûre que ça arrive, hein, ce genre de discussion entre adultes en mode ouais, c'est pareil. Bah moi, c'est pareil depuis 2 mois, en fait, tu vois. Il y a toujours une comparaison qui est assez forte. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pression qu'on peut se faire. C'est parce qu'on se compare beaucoup et même les enfants sont comparés dès l'âge. Et c'est hyper dur pour un parent qu'on compare son enfant, son bébé, son trésor. Quoi.
Donc ouais, on peut ils veulent avoir le meilleur enfant un peu. Hein.
C'est ça. C'est pour l'ego. Et
justement, combien de personnes vont recourir aux modifications génétiques pour avoir le meilleur enfant possible?
Ah oui.
Mm-hmm. C'est ça. En soi, j'aimerais bien vous demander si vous aviez le choix. En fait, on a déjà répondu. Si vous aviez le choix, vous serez contre.
Ouais, totalement.
Après, voilà, ça dépendra de mon partenaire. Genre, s'il a une maladie génétique. Après, est-ce que je voudrais faire un enfant? Je sais pas. Peut-être que je voudrais adopter aussi. Hein. Il y a aussi l'adoption. Oui, donc, après, je sais pas si je voudrais vraiment faire un enfant ou en adopter un. Mais en tout cas, ça dépendra du partenaire. Parce que moi, je sais qu'en tout cas... Il peut tout prendre, il sera parfait, quoi.
J'aime bien ton optimisme.
C'est un constat, quand même. Hein. Donc, voilà, donc, je pense qu'on a presque tout dit. De toute façon, je pense qu'on rajoutera des choses dans la conclusion. Donc, avant tout ça, nous allons faire une petite pause musicale qui est programmée de Nekfeu. D'ailleurs, Sacha, tu peux nous en parler un tout petit peu avant?
Ou peut-être qu'on va l'écouter ensuite, on en parlera après.
Ah ouais.
Comme ça, au moins, on laisse les auditeurs se faire leur petite idée de la chanson. Exactement. Du coup, écoutez bien.
Tout est une question de volonté. En dessous d'une enseigne qui clignote, une pute qui renseigne les clients. Trop malade pour allaiter, faire de la maille pour un été. Substance illicite dans la chatte, tu peux t'enliser dans la jungle. Mais ça va te manquer si tu n'achèves, t'auras plus d'amis si t'en lâches. Un pote en galère, faut l'aider, c'est ainsi jusqu'à la fin des temps. Une aventure dans le vent d'été peut te conduire à la vendetta. Y'a rien ni personne qui te force à rafaler, rien de plus beau que la fierté ravalée. Mais si jamais tu dois faire le mauvais choix, ne règle pas tes comptes devant les decks. Tout est une question de volonté. Je connais la vengeance, je raffolais d'elle. Maintenant je reste froid comme un Finlandais. Tout est une question de volonté. volonté. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Ouais. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Les tentations pourraient me loter. Tu deviens violent quand t'es violenté. Assassiné quand t'es menotté. Tout est une question de volonté. 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 Tout est une question de. Tout est une question de volonté, tout est une question. Dites aux juges de pas juger ceux qui ont manqué d'amour et qui l'ont découvert sur la banque. Et arrière, cette époque est ta mère pour le prolétariat. Dites aux financiers que l'argent de la banque est à nous. Je me sers volontiers, je ne vais pas commenter devant la télé. Tout est une question de volonté, ouais. Tout est une question de volonté. De la lumière pour éclairer vos lanternes. Tout est une question de volonté. Ça prend peu de temps comme un vol interne. Tout est une question de volonté. Obligé de vivre dans cette société, mais je ne veux pas de leçons venant d'elle. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté, ouais. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Ils font la grimace devant nos têtes. Tout est une question de volonté, ouais. J'suis poli sur les plateaux télé au cas où ma manguette, la lame de rasoir est planquée sous ma languette. J'me réveille pour éteindre l'alarme et j'me rendors. Priez pour moi si je me rends tort. Ils me voulaient d'aide, dommage pour eux, j'suis pas volontaire. Tout est une question de volonté, tout est une question de volonté. Devant la folie, n'aie pas l'air affolé. Dès que t'as des inquiétudes, faut les taire. Tout est une question de volonté, tout est une question de volonté. Sans cette putain d'amitié, je me sentirais seul sur la terre. Fou, je te dis déjà tout dans mes textes. Je ne devrais même plus faire d'interview. Beaucoup de bouffons qui interfèrent. Et la voix de mon frère à l'interphone qui me dit tu donnes trop quand tu performes. Mais je ferai tout pour qu'on m'interview. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Tout est une question de. Tout est une question de destinée. Right.
Revenu, on est revenu. Donc j'espère que vous avez bien apprécié cette pause musicale. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on est où ? Dans Radiograph Hit, la fréquence est de 94.9 FM et nous sommes dans l'émission L'eugénisme au cœur du débat. Donc Sacha, c'est toi qui a proposé en fait ce titre. Donc
oui, non mais j'ai.
Pourquoi quoi ?
Déjà, je trouve que c'est une super musique. Hein. Bon après, comme toutes les musiques de Nekfeu pour moi, mais. Bon. Mais c'est vrai que bon déjà le titre de la chanson c'est tout est une question, c'est programmé. Donc programmé qui fait référence un peu à ce qu'on a dit avant hein, avec les gènes et dans cette musique il parle tout est une question de volonté, il le dit même 45 fois, je pense que vous l'avez remarqué.
Tout est une question de volonté.
Vous l'avez remarqué hein, c'est un peu d'une manière robotique mais c'est aussi pour dire que il y en a beaucoup qui font des efforts. Et que même s'ils sont dans la misère, ils font cet effort-là. Et ils n'arrivent pourtant pas à sortir de là, en fait. Et c'est pour ça qu'à la fin, il dit « Tout est une question de destinée ». Et donc, je pensais que... Ouais, c'est vachement bien.
C'est hyper motivant. Tout est une question de volonté. En fait, non, tu vois, ça dépend.
C'est pour ça, ça fait référence justement à ce fameux déterminisme génétique.
Après voilà, il y a des gens qui n'ont pas de chance hein, dans la vie.
Oui, non mais c'est sûr.
La bonne ambiance. Donc là, on va conclure hein, parce que voilà.
Ça fait une heure qu'on fait l'émission.
C'est
et
ça.
Je pense qu'on a couvert un bon nombre de problématiques.
Oui, c'est ça. Et bon, j'espère en vrai que vous appréciez en fait. Hein. Voilà. Nous, on apprécie beaucoup. Et donc là, on va conclure avec cette petite question. Comment lutter contre les dérives de l'eugénisme ? Parce qu'on peut pas en fait interdire l'eugénisme. Ça serait en fait, ça serait pas cool entre guillemets, mais enfin, vous m'avez compris. Enfin, ça dépend.
Et en tout cas, si je peux permettre, ce serait pas sympa d'empêcher des parents de soigner leurs enfants.
Ah ouais, c'est ça en fait. Donc, on se rend compte que l'eugénisme, c'est pas un oui ou c'est un non, c'est beaucoup plus complexe. Et en fait, il faut poser des limites. Et justement, quelles sont ces limites ? Et c'est dur en fait de définir ces limites. Et les effets d'eugénisme, ça résulte du choix individuel. Et en fait, c'est tout. En fait, on demande surtout en fait un état de conscience des risques et des conséquences en fait de faire un enfant. Même avant l'eugénisme, faire un enfant, c'est un choix qu'il faut faire en étant responsable. Voilà, au cas où. Et En fait, en gros, si on lutte contre cette forme d'eugénisme, c'est un peu restreindre la liberté, alors que quand même, on est très affecté par la liberté. On chérit ça, d'ailleurs. Et donc, à faire un choix, et donc limiter le choix de ce que les personnes pourraient faire. Et voilà, donc... voilà, on peut en parler, parlez-en.
Mais on pourrait aussi se dire, on peut ne rien faire et se dire que ça finir par les questions d'eugénisme vont finir par s'éteindre. Bah, ça serait de suivre ce qu'on appelle le statu quo procréatif. Mais en fait, on remarque qu'avec les progrès de la science, on n'est pas vraiment là dans ce sens-là, en fait. Donc les questions de l'eugénisme vont finalement finir par ressortir. Moi, je pense pas que ça soit la solution à apporter.
Après, voilà, genre en vrai, l'eugénisme en soi, je sais pas quoi. En fait, genre, je sais quoi y penser et je sais les limites que je dois donner, mais comme je dis, c'est hyper personnel. Ouais. On peut vraiment pas se mettre à la place des parents. On peut pas savoir en fait à quel point ça peut, je sais pas, ça peut affecter et tout.
Bah, en fait, c'est. Il y a des dérives, on peut avoir des dérives dans n'importe quelle innovation technologique, hein, parce que c'est une innovation.
Il y a des bons côtés comme des mauvais côtés. Hein,
exactement.
Totalement. Donc voilà, en fait, en vrai, ce qu'il faut, c'est vraiment s'informer voilà, genre, en vrai, c'est ce qu'il faut, c'est s'informer, savoir qu'est-ce que c'est l'eugénisme, en fait, c'est ça, c'est ouvrir toujours les portes et donner le choix, en fait, aux gens. Dire, ok, donc l'eugénisme, c'est ça, est-ce que tu veux faire ça? Ok, continue ta vie, quoi.
Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est important de limiter, on va dire, ces dérives, hein, parce que on sait qu'à chaque nouvelle innovation technologique, donc il y a des incertitudes qui arrivent, hein, avec leurs utilisations. Donc si le pire n'est jamais sûr, alors le meilleur ne l'est pas non plus. Hein. Mais comme ce qu'avait dit Kennedy en 1961, l'homme tient désormais dans ses mains mortelles le pouvoir d'abolir toute forme de pauvreté humaine, mais également celui de faire disparaître toute forme de vie humaine.
Et donc c'est avec cette belle
conclusion bien positive et optimiste.
Voilà, on a un peu trop de pouvoir dans nos mains, mais c'est avec cette belle citation qu'on va arrêter cette émission. Et donc voilà, j'étais ravie d'être avec vous, hein, même si on n'était que trois. Hein. Vive le Covid, hein, ou la Covid, de toute façon, moi je dis le Covid. Hein. Et donc voilà, et merci encore pour...
Merci aussi.
Ouais, c'est
merci
ça.
Merci beaucoup.
Et merci pour...
N'hésitez pas à réagir sur la page Facebook de Graphite aussi.
N'hésitez pas voilà, à liker la page.
À échanger avec nous.
Exactement.
On sera là.
On sera là, oui.
Exactement.
Et si je peux me permettre, on va encore faire d'autres émissions, dont une sur l'intelligence artificielle et l'art. Et la deuxième sur la 5G.
La magnifique 5G.
C'est ça, encore des sujets
passionnants.
Sous le cœur de l'actualité.
Exactement,
hein.
Sur lesquels est-ce qu'on peut débattre.
Totalement. Du
coup, n'hésitez pas à écouter Graphite.
C'était Yasmine, Lucille et Sacha du projet de SI1A 2020 pour la radio. donc on est toujours dans Radio Graphite, dans la fréquence 94.9 FM. Et on était ravis de vous voir.
Merci.
Merci.